question d'Islam par Al-Benshir. Aujourd'hui, nous parlons de contes, d'art oratoire, d'amour et d'Orient. Qui dit Islam ne dit pas nécessairement Orient, mais il y a une certaine identification dans l'esprit de beaucoup de nos auditeurs. Et j'ai grand plaisir à recevoir Moustal Largo. Moustal Largo, bonjour.
Bonjour, Alain Bencher.
Vous êtes un grand artiste belge. Nous apprenons à vous découvrir. Vous êtes musicien, chanteur, conteur. Vous êtes pour cet art oratoire qu'est le conte et aussi pour une réflexion sur l'importance du conte qui développe l'imaginaire, notamment dès l'enfance. Comment étiez-vous amené vous-même à pratiquer cet art, l'art du conte?
Alors, il y a beaucoup de choses qui ressemblent à ce qu'on appelle en arabe le mektoub, le destin.
Ah, alors, c'est écrit.
Oui, exactement. Mais je ne crois pas à l'écriture comme étant quelque chose que je vais devoir vivre, mais plutôt comme presque comme du braille. On nous a écrit quelque chose en braille, mais c'est à nous à l'interpréter à notre manière. Je pourrais dire que, comme beaucoup de Maghrébins, moi j'ai eu la chance quand je retournais dans le sud, moi c'est le grand sud marocain, un petit village qui s'appelle Goulmim, qu'on appelle la Porte du Sahara, d'avoir une grand-mère qui était aussi fripée que le plus ancien des livres, qui était analphabète mais qui connaissait ce qu'on appelait en arabe « el-hajia ». L'hajia, c'était presque une mémoire avec, alors malheureusement, bon, nos grands-mères ne connaissaient pas le mot Freud et psychologie, c'était toujours des contes qui faisaient peur. Autant dire que on en prenait souvent pour notre grade, nous qui venions de Belgique avec, dans notre inconscient, la petite maison dans la prairie et Goldorak. On arrivait chez la grand-mère, il y avait des contes qui faisaient peur. Hajitek, majitek. Et donc, on écoutait ces histoires.
Hajia, c'est à la fois histoire, conte, légende, métaphore.
Exactement. Oui. On les comprenait souvent au premier degré, alors que souvent elle comportait deux, trois djellabas de lectures différentes. Et puis plus tard, alors pour être très honnête, j'étais très fainéante quand j'ai quatre enfants, quand je devais raconter des histoires le soir, c'était la maman de mes enfants qui leur racontait l'histoire. Elle me dit, mais arrête, toi tu t'occupes du bain, des poubelles, et je vois que tu as pas. Je dis, mais écoute, les livres, la voix que j'entends de la poule, ça c'est pas la voix dans ma tête, donc j'arrive pas à la réinterpréter. Et j'ai commencé à jouer avec mon luth, des chansons, une souris verte, un meunier qui dort. Et j'ai commencé à faire des spectacles pour enfants, parce que j'ai une carrière d'adulte en tant que chanteur et musicien. Et je me suis retrouvé sur scène, je me dis, mais je peux pas que chanter. Et si je leur racontais une histoire, comme, peut-être pas la même manière, mais comme le faisait ma grand-mère, c'est-à-dire sans artifice, sans devoir passer par une école du conte, parce que qui raconte quelque chose et est entendu, pour moi, est conteur. Et c'est comme ça que ça a commencé en 2000. Et depuis, ben, j'ai sillonné beaucoup de routes, mais vraiment beaucoup de routes. On s'est même retrouvé au festival francophone de Louisiane à raconter des contes d'Ali Baba, mais que j'ai intitulé « Ali Baba les 40 conteurs » pour les Américains. Et c'est parti comme ça.
Moustal Largo, vous qui avez baigné dans ce qu'on appelle maintenant le contexte islamique ou les contextes islamiques au pluriel, vous me parliez de la destinée du kalam, ce roseau taillé en plumes. Vous écriviez des choses à la gloire du divin et des belles paroles. Et ce même kalam, vous l'utilisez aussi pour consigner par écrit vos contes ou les contes que vous racontez. Mais il se trouve que le roseau peut avoir une autre destinée. C'est le ney, la flûte.
Tout à fait.
D'un côté, il y a la plume. De l'autre, la flûte. C'est que d'un côté, on a de quoi consigner par écrit les choses qui approcheraient du vrai. Et il y a aussi ce qui met en scène l'art. Donc la science et l'art. La rigueur géométrique, le jeu musical, l'esprit de géométrie, l'esprit de finesse, aurait dit un Pascal. Vous retrouvez dans ces deux approches, approcher le vrai, approcher le beau. On laissera le bien pour une autre fois. Mais vous avez cette double fonction pour le roseau.
Ah, c'est intéressant la manière dont vous avez amené les choses, parce que c'est une double ou triple question. Je vais rebondir sur ce que j'entends dans votre question comme métaphore. Il y a une trace vivante, matérielle, et une trace immatérielle, éphémère. Le ney, la musique, et c'est ça ma frustration, c'est que... Enfin, vous le connaissez aussi bien que moi, quand vous êtes sur scène, vous avez un bel auditoire, vous faites une belle conférence, vous partez, il y a toujours ces petits deuils de dire « c'était chouette ». Quand je parle de l'époque où on les enregistrait pas en podcast et qu'on les diffusait, c'était chouette, mais je le revivrai plus, cet instant-là est éphémère. Comme voir mon enfant qui est né, je me souviens qu'au deuxième, je me dis, je vais profiter de chaque instant, car je le revivrai pas avec lui, ce moment-là. Il y a ce côté, je pense, dans le conte, dans le ney, quand on le chante, le kalam nous amène ce moment de joie, de plénitude, comme le lever ou l'un coucher du soleil, c'est un moment T. Il disparaît.
Et je rejoins... Ce qu'on appelle les tableaux vivants.
Oui, voilà, exactement. Ils disparaissent, donc le ney, quand j'entends un taksim de ney ou un moudzin, j'ai, malheureusement, je fais une digression, hein, volontiers, je viens d'un village, Goulimim, qui est devenu une ville où il y a eu une perturbation, littéralement, puisqu'on parle de l'islam, je peux me permettre ici de l'aborder, une perturbation dans le moudzin. Je ne sais pas qui a mis cette idée saugrenue, je peux le dire comme ça, qu'il fallait que le moudzin soit le moins beau possible. On n'est pas là pour faire de l'ostentateur, on n'est pas là pour renner, pour chanter. Et on est passé de « Allahu Akbar, Allahu Akbar ». J'ai grandi avec ça, avec « Allahu Akbar ». Et je me dis « Mais pourquoi ?» Et on m'invitait avec une émission belge à Luxor, et j'ai entendu à 4h30 du matin un moudzin, dans des maqams du Hijaz. Et je me suis dit « Si je n'étais pas musulman de culture, je pourrais trouver ça à 4h du matin. Alors que ça me réveille, parce que tous les touristes n'aiment pas le moudzin. Je trouverais ça beau. Et non seulement j'ai trouvé ça beau, mais ça m'a littéralement ému et bouleversé. Et donc, c'était la petite digression entre ce qu'on peut faire de beau avec une voix, alors que c'est de l'éphémère. Et je me suis dit, mais ça me manque au Maroc. On a l'une des plus belles mosquées. Je ne parle pas de celle de Hassan II. Pour moi, la plus belle, c'est la Koutoubia en termes de minaret, héritage des Almohades. Ce minaret, il y a un appel à la prière et il n'est pas agréable. Dans le sens mélodique, et je m'excuse d'offusquer mes compatriotes marocains, il pourrait être beaucoup plus lahan, beaucoup plus, alors qu'on le fait dans d'autres mosquées au Maroc. Hein.
Beaucoup plus lahan, c'est-à-dire beaucoup plus mélodieux.
Mélodieux, exactement. Donc ça, c'était la petite digression, mais je reviens donc après le kalam qui me sert à écrire, figer, et c'est la première fois où j'ai fait un livre, ça c'est mon livre des contes, parce que j'ai des CD, et c'est assez drôle, mais maintenant j'ai des amis qui m'ont dit « je vais t'acheter un CD par amitié ». Je dis pourquoi ? Il me dit « mais j'ai plus d'appareil, tout est fait maintenant en USB ou en Spotify, il n'y a plus d'appareil dans les voitures ». Il me dit « quand je loue, je ne sais pas le mettre, ma voiture, il n'y a pas de lecteur de CD ». Je me dis « ok, ben peut-être ce qui va nous survivre, ce n'est pas l'apport physique, puisque tout est numérique, j'ose croire, j'ai peut-être cette naïveté de croire que le livre, par contre, lui, on ne pourra pas le numériser. On a essayé les tablettes, il n'y a rien de plus agréable qu'un livre qu'on croque, qu'on peut même souligner, même si c'est pour moi un peu blasphématoire, des gens qui vont avec du stabilo dans un roman. Mais il est là, il est physique, et donc le kalam, pour moi, il est cette mémoire vivace et intemporelle.
La lecture sur tablette reproduit maintenant le son de la page. C'est peut-être...
Mais mais au bord de la piscine, quand on a le verre de thé à la menthe ou le mojito, selon, qui se renverse sur la tablette, c'est pas la même chose que quand c'est sur un livre.
Oui, bien entendu. Alors, revenons au conte, ouais. AUX, ouais. Puisque vous en avez plusieurs contes, tous dans l'imaginaire arabo, berbéro, persano, turco, sino-musulmans. Tiens, commençons par celui des Ouïghours, un conte du chinois, oui. Matinée d'islamité. Que raconte ce conte ?
Alors, comme je suis un conteur qui prend le temps de compter,
Nous avons le temps.
Oui, je ne vais pas le faire très très long, mais c'est... Alors, il faut savoir que la trame, parce qu'il y a comme une trame liée à tous ces contes, c'est l'amour. Et donc c'est un tailleur de costumes, il fait des costumes chinois qui est avec sa bien-aimée. Ils n'ont pas beaucoup d'argent, mais ils sont plus qu'heureux grâce à l'amour justement. Et ils ne passent pas un soir sans jamais oublier de se dire « je t'aime ». Ça c'est tous les soirs. Et alors, un soir ils sont là, et lui il est en train de faire sa couture, et puis sa femme prépare le riz, ils discutent, ils rient, et ils entendent qu'on frappe à la porte. Et on le sait, dans l'islam il y a évidemment, l'accueil de l'étranger.
Le couvert de l'enfant de la route.
Exactement. Chez nous, Daif Allah, l'invité de Dieu. On lui ouvre, il mange. Il s'avère que cet homme qui vient manger est en bonne chair, en bon point. En fait, c'est un riche marchand. Et il a cassé la roue de sa carriole et il demande l'hospitalité pour la nuit. On lui dit bien évidemment rentrer, manger, dormir. Et puis il regarde le tailleur avec ses doigts très fins en train de tailler ce costume. Il dit, mais vous vendez combien de costumes? Il dit, j'en vois autant. Il dit, vous faites combien? Et puis je me fais autant. Il dit, mais c'est médiocre. Vous savez que si vous venez dans la cité impériale, vous pourriez vous faire 10 fois plus que ça. Imaginez, vous travaillez 1 an. Vous avez de quoi vivre pendant 10 ans. Vous seriez l'homme le plus heureux. Il dit, oui, mais ça veut dire que j'abandonne mon épouse. Et ça, je ne peux pas. Mais réfléchissez ici. Moi, je pars que demain matin. Et bon. Il discute avec sa femme, il discute, elle dit mais ça nous mettra à l'abri de beaucoup de choses et puis on pourrait passer encore plus de temps ensemble. Oui, mais je pourrais pas te dire tous les soirs je t'aime, mais dis-le dans ton cœur, je le dirai dans mon cœur. Très bien. Elle lui dit, écoute, quoi qu'il arrive, je t'attendrai pour que nos corps puissent se retrouver. Donc la pudeur m'invite à laisser l'auditeur imaginer. Et donc voilà notre ami qui part dans la cité interdite et puis la cité impériale, pardon, il part pour travailler, il travaille. Pendant cette année, il passe du stade d'apprenti à compagnon, de compagnon à maître, c'est devenu un grand maître couturier. De l'argent, il en a à foison, il est prêt à rentrer à la capitale, sauf que la guerre s'est déclarée entre-temps. Et donc, on lui dit, il est impossible, les routes sont impraticables, il faut savoir que tu risques la mort et tout ça. Et donc, il panique, il y a son amoureuse, elle est loin, il faut qu'il reparte à dos de mule ou à dos d'âne ou à pied, mais il veut partir. Et on lui dit, non, attends, 6 mois, c'est cool, peut-être 1 an, l'histoire ne nous le dit pas. Enfin, les canons se sont tus, il peut partir. Et voilà qu'il part. Et au fur et à mesure, ce n'est que désolation, champ de ruines et cadavres. Et puis il arrive dans son village et il a le cœur qui se serre de plus en plus. Et une prière intérieure, c'est celle de dire « Ya Rab, pourvu qu'elle ne m'attende, pourvu qu'elle soit là. » Et chose étrange.
« Oh Seigneur, pourvu que mon épouse
exactement,
soit là. »
Exactement. Et il y a sa petite maison, juste que sa maison qui est là, debout. Et il arrive, le cœur serré, il frappe à la porte qui s'ouvre, son épouse est là, mais elle a changé. Dans son regard, quelque chose est éteint et ses cheveux sont totalement grisonnants. Et il ne comprend pas, elle lui fait juste chut, un doigt sur les lèvres, elle dit « accompagne-moi ». Elle l'amène dans la chambre, ils s'allongent l'un contre l'autre, les deux corps se retrouvent, mais aucun mot n'est prononcé. Et il s'endort, fatigué du chemin, mais en même temps heureux de retrouver sa femme. Et au moment où il va pour se réveiller, il sent qu'il a froid et quand il se réveille, il est dans un cimetière, il est sur la stalle tombale de sa femme et il comprend la promesse qu'elle lui a faite, c'était « je t'attendrai pour faire l'amour une dernière fois avant de partir s'il le fallait ». Et j'aime beaucoup ce conte car et ce n'est pas une question de dire ben, « il a suivi l'argent, il a perdu sa femme », non, non, c'était « l'amour transcende la mort ». Je l'ai compris comme ça. Et chaque conte révèle en lui plusieurs lectures et plusieurs, presque plusieurs médicaments. Car quand on lit un conte, selon moi, bien évidemment, on y va chercher aussi des réponses des fois à des choses qui nous bouleversent, qui nous font mal, des deuils ou même des joies. Hein. Tout conte n'est pas là que pour ça. Mais je le trouve porteur d'un certain espoir quelque part.
Oui, le conte a une vertu édificatrice. Et là, la moralité, c'était soit il serait resté avec son épouse, mais avec peu d'argent, il aurait goûté à la saveur de l'amour.
Exactement.
Soit, mu par l'appât du gain, c'est pas dépréciatif dans ma bouche, mais là, la contrepartie, c'est qu'il serait privé de l'amour.
Exactement, ça peut être ça aussi.
Bien. Maintenant, un autre conte, si vous voulez bien, celui de Tariq et la princesse des djinns.
Tariq et la princesse des djinns, ça se passe à Cordoue. Et à Cordoue, il y a un berger qui n'a pas beaucoup d'argent et dont la mère tombe un jour gravement malade. Et il se dit qu'il pourrait prendre tous les moutons de Cordoue pour les amener dans les pâturages, pour gagner un peu plus de sous. Et il va marcher pendant des jours et des jours avant de trouver un point d'eau. Mais il faut savoir que Cordoue, c'est comme Marrakech, très froid en hiver et horriblement chaud en été. Lorsqu'enfin il trouve un point d'eau, c'est sous un olivier. Et il se dit, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour passer le temps? Et alors, comme tout bon berger qui se respecte, et si je me faisais un ney, une flûte de roseau? Et justement, un ney est là, près de l'étang, qui oscille de droite à gauche sans jamais rompre. Il se dit il est suffisamment solide pour accompagner mes notes de musique. Il le coupe, il le brûle pour chauffer le qasba, c'est-à-dire...
Et le consolider.
Exactement, et le consolider. Il le perce, il essaye. Au départ, une note, puis deux. Et sans comprendre pourquoi, ses doigts commencent à jouer. Et de plus en plus frénétique, un peu comme la flûte enchantée de Mozart. Elle n'est pas enchantée, elle est mejnouna, c'est-à-dire envoûtée. Et il joue, alors il se dit qu'elle doit être envoûtée par un djinn. On a peur des djinns à Cordoue. Il prend la flûte, il la jette, elle se casse en trois morceaux. Mais à peine a-t-elle touché le sol qu'il entend... Le cheval s'arrête juste devant lui et sur le cheval, une très belle princesse. À sa taille, une ceinture en or et à ses doigts, des bagues serties de diamants. Et elle lui dit, c'est toi, jeune berger qui m'a sauvé la vie. Lui, étonné et effrayé, lui dit, mais non, moi, je n'ai rien fait. J'étais simplement en train de me disputer avec une maudite flûte qui n'arrêtait pas de jouer. Elle dit, ben justement, la mélodie que tu as jouée était si belle, si pure, qu'elle a rompu le charme qui me retenait prisonnière dans la grotte que tu vois là-bas. Je suis la fille du roi des djinns. Et comme tu m'as sauvé la vie, je vais t'offrir ce que j'ai de plus cher. Je vais t'offrir mon cœur. Veux-tu m'épouser ? T'épouser ? Il dit, mais je peux pas t'épouser. Regarde, toi, tu es riche, tu as de l'argent, de l'or. Mais moi, je n'ai qu'une vieille djellaba sur le dos. Comment je pourrais même te donner une dot ? Elle dit, mais l'argent, ce n'est pas un problème. J'ai des coffres remplis de diamants et mon père, c'est le roi des djinns. Le problème, c'est que tu es un humain. Et moi, la fille d'un djinn. Pour qu'on puisse se marier, il va falloir faire un sacrifice. Un sacrifice ? Oui. Pendant un mois, tu ne devras adresser la parole à personne. Te sens-tu capable de ne pas parler le temps d'une lune ?
Il fera le jeûne de la parole.
Exactement. Pas un mot pendant 28 jours, 28 nuits, et puis elle se tourne et elle détache une bourse de sa selle qu'elle lui remet. La bourse, elle est pleine de pièces d'or. Lui qui n'a jamais vu même une bourse pleine d'argent. Tout excité, il enferme la bourse, il la met dans sa djellaba, il se redresse pour embrasser la princesse, mais elle avait déjà disparu comme par enchantement. Et là, tout s'enchaîne. Il court vers Cordoue. Il abandonna les moutons, ce n'est pas grave, les amis. Il a de quoi s'acheter des centaines de troupeaux. Et il court. Arrivé dans la belle ville de Cordoue, il se faufile dans les ruelles du vieux quartier de la Ruderia. Il débouche dans la maison où la mère est en train de dormir. Il ne la réveille pas. Il dépose simplement la bourse près de sa tête, prend quelques pièces, l'embrasse affectueusement sur le front et quitte la maison. Le matin, faisant mine d'être muet, il va au souk, s'achète des vêtements dignes d'un sultan, un grand turban, un bissac, de quoi manger, de quoi boire, et il quitte le royaume. 28 jours, 29 nuits se sont écoulées. Et le voilà enfin qu'il revient à Cordoue, car il sait qu'il va être fait dans quelques instants prince des djinns. Alors il veut déjà goûter un peu au pouvoir. Et le pouvoir, c'est Sahat al-Qasr, c'est-à-dire place de l'Al-Qasr, là où il y a le grand palais. Il arrive. Et là, la place, elle est noire de monde à minuit. D'habitude, il n'y a personne. Et là, les gens sont en train de pleurer, crier. Certains même se griffent le visage jusqu'au sang. Cheikh Mat, le roi est mort. Le roi est mort, se dit-il, mais ce n'est pas possible. Quand j'ai quitté Cordoue, j'ai laissé l'émir jeune et en bonne santé. Et on est en guerre avec aucun autre royaume chrétien. Soudain, Tariq se rend à l'évidence. Quelqu'un a assassiné le sultan. Et moi, se dit-il, moi qui étais absent pendant plus d'une lune, moi qui reviens avec des avis dignes d'un sultan, comment je vais pouvoir me justifier ? De peur, il met la capuche de son sedham sur la tête, se faufile par l'arrière du palais pour rejoindre sa maison. Et là, nez à nez, avec l'ombre d'une femme voilée. Il est heureux, c'est la princesse. Il s'approche, mais au fur et à mesure qu'il s'approche, la forme n'est plus la même. Elle lève le voile, c'est la sultane en personne. Il s'incline en signe de respect. Elle lui dit « Qui es-tu ?» en séchant ses larmes. « Qui es-tu, étranger ? Je ne t'ai jamais vu dans mon royaume. Et peut-être même, tu n'es même pas au courant, mais vois-tu, aujourd'hui, j'ai le cœur en peine. » Car j'ai perdu mon âme sœur, j'ai perdu mon époux. Et la tradition en Al-Andalus, c'est que je dois épouser le premier étranger que je croise et tuer ce premier étranger. Veux-tu m'épouser ? Par Allah, se dit-il au fond de lui, pourquoi ? Pourquoi tu m'envoies la sultane ? Si je lui dis oui, je perds ma princesse, mais si je lui réponds pas, elle pourrait très bien claquer des doigts et me faire couper la tête. Et puis il commence à peser le pour et le contre. Et comme vous le savez, en amour, on ne pèse pas le pour et le contre. Il se dit que s'il attend quelques heures, il sera fait prince. Mais s'il lui dit oui, il sera fait sultan. Et qu'est-ce qui est plus puissant ? Un prince ou un sultan ? Ben un sultan. D'ailleurs, quand je serai sultan, je resterai pas à Cordoue. J'irai à Grenade. Depuis Grenade, je contemplerai le nord. Et avec mon armée, nous irons reconquérir Tolède et peut-être pousser jusqu'à Poitiers. Et là, il se redresse, il regarde la sultane dans les yeux. Il dit « Oui, ma sultane, je veux bien t'épouser. » Elle le regarde et au fond de ses yeux, on aurait dit qu'il y avait des flammes en train de consumer son âme. Elle lui a souri tristement, on a vu deux larmes et pssst, elle a disparu. Toute la ville de Cordoue a disparu sous ses pieds. Tous les beaux vêtements qu'il avait achetés à prix d'or ont quitté ses épaules. Il s'est retrouvé tout seul, entouré de moutons, une vieille djellaba sur le dos, une flûte cassée en trois morceaux à ses pieds, au milieu de la campagne andalouse. Et il aura beau crier « Princesse, reviens, je m'excuse, je ne savais pas que c'était un ultime test. » Plus jamais, les amis, il ne reverra la princesse. Alors souvent, on nous demande quelle est la morale de l'histoire. On dit souvent que l'amour, eh bien, c'est la parole donnée.
Et donc, fin du compte et la moralité, toujours, c'est ne pas soupeser le pour et le contre en amour. L'amour est gratuit.
L'amour est gratuit. Et comme ce livre est tiré d'un spectacle, ça s'appelle Les Jardins de l'amour, Contes d'Orient, c'est en fait la quête de Abdelrahman III, l'un des plus grands, puisqu'il prend le titre de khalife à Cordoue. Il se fait avoir par Zahra. Zahra, à qui il va construire Madinat al-Zahra, elle lui pose une question très simple. Tu dis que tu m'aimes, tu m'offres des soieries, tu m'offres du vin de Chypre, tu m'offres des diamants, des pierres précieuses. Mais chaque fois que tu me balances le « je t'aime », c'est quoi l'amour? Comme il ne sait pas lui répondre et qu'il est futé, il lui dit « laisse-moi une semaine. » Et il organise une nouba. Pour ceux qui ne connaissent pas les noubas, nouba veut dire tour à tour. Sauf que c'est pas une nouba de musique. C'est une nouba de conte autour du thème de l'amour. Et deviendra le plus riche celui qui trouvera la vraie réponse. Qu'est-ce que c'est l'amour? Et chacun vient avec une réponse différente. Il y a le conte de Narcisse, il y a le conte du chinois, il y a le conte. Pour celui du chinois, bien, c'est simple, c'est l'amour transcende la mort. Et pour le conte ici du berger, bien, c'est que l'amour, c'est la parole donnée. Quand on manque à sa parole en amour, alors ce n'est pas, bien évidemment, ce n'est pas de la morale dans le sens « attention, va des rétro, Satanas, vous avez trompé quelqu'un ». En ce qui me concerne, ça va plus loin, c'est que pour moi, le véritable amour entre deux êtres, c'est un amour qui est débarrassé de toutes ces angoisses, de toutes ces craintes, de toute cette cupidité. On va fouiller dans le GSM de l'autre, on ne lui fait pas confiance, on le soupçonne. Et là, il y a un terrible psychiatre chez nous qui s'appelle Boris Cyrulnik qui disait la pire des relations amoureuses entre deux êtres, alors je dis pas homme-femme, femme, chacun y mettra ce qu'il veut, deux relations, c'est la dépendance affective avec le pervers narcissique ou la pervers narcissique. Ça, c'est les relations les plus dysfonctionnelles. Et donc, l'amour, c'est la liberté.
Et j'ai lu, vous avez écrit, je crois que c'est en introduction, au lieu de dire « j'ai besoin que tu m'aimes », il vaut mieux peut-être dire, à supposer que ce soit pertinent, « j'ai besoin que je t'aime ».
Effectivement, c'est très vrai. C'est débarrasser de ce besoin d'être... D'ailleurs, on peut faire un test. Chers auditeurs, sans réfléchir, si votre compagnon ou votre compagne vous dit « je t'aime », vous répondez « on l'a entendu, moi aussi ». Or, on ne sait pas ce que revêt le « je t'aime ». Quand moi je dis à ma partenaire « je t'aime », est-ce une affirmation ou une interrogation? Affirmation, auquel cas c'est « je t'aime et merci pour le temps que tu me donnes et la manière dont je me vois dans ton regard » ou ainsi de suite. Ou c'est « je t'aime mais confirme-moi que tu m'aimes et que tu ne vas pas me tromper, que tu ne vas pas m'abandonner ». Et donc, dans les deux cas, je ne peux pas répondre moi aussi. Alors, on a un modus operandi avec ma compagne. C'est quand elle ou moi, on dit à l'autre « je t'aime », l'autre dit « j'accueille ». Parce qu'on n'aime pas de la même manière tous les jours. C'est pas au même degré, c'est pas au même niveau. Et alors, si on fait une transposition aussi à l'islam, j'ai prié en mosquée et je me suis senti, quand j'étais jeune, à vouloir copier mon père. Donc, il fallait faire des taraweeh un maximum possible parce qu'il fallait qu'il y ait...
Taraweeh, pour nos amis auditeurs, sont ces prières surérogatoires qu'on accomplit en plus des prières ordinaires le soir et notamment durant le jeûne du mois de Ramadan.
Exactement. Et comme l'islam, mon islam, puisque c'est un islam appris par des parents analphabètes qui venaient des douars et des campagnes, c'est un islam empli de superstitions. Plus je dirais bismillah, plus ce sera béni, plus ce sera... Et donc, en fait, une prière, c'est des fois juste fermer les yeux et d'être au moment présent. Si Dieu est omnipotent, omniprésent,
omniscient,
il n'a pas besoin qu'on traduise notre pensée, il l'a comprise déjà. Donc il suffit de fermer les yeux et on est en prière. Il ne faut pas trop de falbala, il ne faut pas du musc du Qatar avec une djellaba de Dubaï et des babouches de Marrakech pour être un bon musulman.
Ou cette anecdote connue. Maïmouna, quand on est venu lui dire « c'est pas comme ça qu'il faut prier parce que tu n'as pas respecté toute la gestuelle canonique » et elle a eu cette réponse de la sagesse populaire « ne venez pas me casser les pieds avec cette observance stricte, Dieu connaît Maïmouna et Maïmouna connaît Dieu ».
C'est fabuleux, eh bien c'est vraiment ça.
Alors nous sommes sur France Culture dans l'émission « Questions d'Islam » avec l'artiste Mousta Largo, qui nous parle de contes et d'art oratoire, mais il est aussi musicien et nous écouterons là une introduction Alia, oui. Qui veut dire la plus élevée, l'imminente.
C'est en même temps un jeu de mots parce que la Alia chez les Juifs,
c'est le fait de partir de, et donc de
c'est,
monter.
C'est ce double paradoxe parce qu'Alia est palestinienne mais chrétienne, vivant à Bethléem et philosophe. Et donc elle fuit la folie des hommes.
Et c'est aussi un nom.
Exactement. C'est celle qui est la haute, quelque part. Et donc elle est au-dessus de la folie des hommes.
Écoutons. C'était la Alia, à la fois prénom, une montée, une prééminence, et aussi la Alia en hébreu, le fait d'aller à Jérusalem, de l'artiste Moustal Argo. Alors si vous voulez bien, passons à un autre conte. Cette fois-ci, on est en Inde, on est au Rajasthan,
ouais.
Un musulman indien. Joueur de bansuri,
oui.
Qui est une forme de flûte,
oui, oui, exactement.
Avec laquelle on joue en Inde. On revient toujours au nez, c'est toujours ou la plume ou la flûte.
Alors l'amour dans l'affaire du joueur de bansuri, un joueur de bansuri, alors pour nos auditeurs qui ne voient pas l'instrument, imaginez une flûte traversière mais en bambou. Donc elle se joue en soufflant sur le côté comme les flûtes japonaises. Et c'est un maître, il joue bien et sa femme est à côté de lui. Elle s'occupe de récolter les roupies qu'on jette dans les cuillères. Et donc lui, il doit juste se concentrer sur la musique et il joue. Et il joue, il est heureux de jouer de ce bansuri. Et il lui dit, tu sais, mon amour, on gagne suffisamment pour vivre, mais... Ah, oh, mon rêve, tu sais, c'est quand même un jour d'acquérir la maîtrise. Elle dit, mais tu es un maître, mon amour. Oui, à tes yeux, mais moi, je le sens pas. Elle dit, mais alors c'est quoi la maîtrise? Il dit, quand j'accomplirai un miracle. Elle dit, mais je pense pas qu'en restant sur cette place publique ici, on risque d'accomplir un miracle. Il faudrait pour ça qu'on s'exile. Et c'est ce qu'ils vont faire. L'Inde est suffisamment grande et les voilà partis en chemin. Et arrivé à un arbre, ils sont fatigués, ils déballent comme ça leur sari, ils commencent à manger, et à un moment donné, des fougères sort un énorme tigre. L'homme et la femme se fichent, et l'homme regarde le tigre dans les yeux, et en faisant des gestes très lents, il va chercher son bansuri, donc sa flûte, et il se met à jouer, tout doucement. C'est au tigre de se figer, de s'asseoir, de fermer les yeux et littéralement de rentrer presque dans un état de transe.
Et d'onduler avec la tête.
Exactement. Et il est là, il accompagne les mouvements de la musique et puis il s'en va. Elle lui dit, mon amour, c'est fabuleux, nous pouvons rentrer chez nous. Pourquoi? Parce que tu as accompli une prouesse inimaginable. Ça, c'est un miracle. Il dit, mais non, ce n'est pas un miracle. Si ça se trouve, le tigre venait de manger, donc... C'est pas un miracle. Elle dit, mais non, ce n'est pas un miracle. Bon, allons-y, continuons notre chemin. Et les voilà qu'ils continuent leur chemin. Et là, de nouveau, ce que j'ai oublié de donner comme détail, c'est qu'ils ont faim, tous les deux. Et ils commencent à jouer du bansuri. Et au fur et à mesure qu'ils jouent, à chaque fois qu'il y a tel mélopée, hop, il y a une fille qui tombe de l'arbre. Mais elle tombe chaque fois avec un tempo. Pac, 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 pac. Elle dit, mon amour, c'est fabuleux. Après le tigre, voilà les filles qui tombent sur le rythme de ton bain de souris. C'est fabuleux. Voilà, on a notre miracle, rentrons. Mais non, ce n'est pas un miracle. Si ça se trouve, c'est moi qui ai été influencé par l'arbre. L'arbre est magique, mais je ne suis pas magique. Enfin, il trouve toutes les excuses du monde pour continuer son voyage. Et vous le devinez, les voilà retournés sur la route de l'exil. Et à un moment donné, ils arrivent devant le Gange. Le Gange gronde, il est rempli d'eau, il charrie, il est impossible à traverser. Elle dit, mais voilà, là c'est un miracle de la nature, il nous empêche d'aller plus loin. Rentrons, il dit, non, il faut qu'il s'arrête, il faut qu'il s'arrête. Il prend son bain de souris, il ferme les yeux, il joue et le Gange commence à se calmer. Non seulement il se calme, mais il s'arrête même de couler et il commence à geler, littéralement, à geler pour leur permettre de traverser sur le fleuve. Il est heureux. Et il lui dit, regarde, regarde, c'est un miracle. Et là, il la regarde, il dit, non, ce n'est pas un miracle, c'est météorologique, c'est pas moi qui ai fait ça. Alors là, la dame n'en peut plus, elle se tient la poitrine et à un moment donné, elle s'écroule. Et il n'en peut plus, là, il pleure, il hurle, qu'est-ce que j'ai fait à mon épouse? Et avec, en plus, c'est que le temps s'est écoulé, ce sont devenues deux personnes très âgées. Il essaye de la réveiller, puis lui, en même temps, entre-temps, il avait perdu la vue, ce pauvre monsieur. Alors, il essaie de la réveiller, il voit que c'est Fuiti, qu'elle est morte. Alors, il prend son bain de souris, il commence à jouer, et là, elle reprend souffle.
Elle rouvre les yeux.
Alors, il est heureux, elle dit, tu vois, tu as accompli un miracle. Et là, il est heureux. Oui, il a accompli le miracle. Ils s'en vont. Mais pour ceux qui l'auraient remarqué, on voit que dans les lèvres de la dame ou de l'épouse, il y a un léger sourire. Peut-être que l'amour, c'est aussi un peu la tromperie.
Et donc, moralité du conte, c'est que pour faire revivre, raviver la flamme, par moment, il faut quelques petits mensonges pieux.
Alors, je ne sais même pas. Si travestir la vérité, c'est du mensonge. Et c'est comme quand on monte sur sa balance, des fois on jette l'essuie pour se sentir plus léger. Est-ce qu'on a menti ou on a essayé de rendre la chose un peu plus belle? Mais je pense que dans les couples, et ça c'est encore un avis totalement personnel, dans les couples, il y a aussi, et c'est important de garder une part de mystère et secret. On révèle pas tout. Et je vais prendre alors peut-être le sujet aussi de la pudeur. La pudeur des corps, moi j'aime que la pudeur, j'aime l'idée de dévoiler les choses à la femme que j'aime. Encore aujourd'hui, avec 7 ans d'amour, on a une pudeur, on peut utiliser la bougie, on a besoin d'une lumière, mais on n'a pas besoin du noir total. On peut avoir la pudeur des corps, qu'après on rhabille pour redéshabiller. Et toute cette pudeur-là, elle fait partie intégrante de l'islam. La pudeur n'est pas le camouflage. Et c'est pas à vous que je ferai l'injure d'expliquer ça.
Je vous en prie.
Et donc voilà, je pense que le secret, on ne parle pas de tout. On ne parle pas de ses ex. Parce qu'il y en a qui disent, oh nous on peut parler de tout, on est potes. Oui, mais des fois c'est bien de garder quelques poussières sous le tapis. Laissons ça à la femme de ménage ou à l'homme de ménage. Et nous gardons entre nous la qualité de la relation. Tout n'a pas besoin d'être dit. Et on le dit aussi avec les amis.
Moustalargo, peut-être pour cette dernière partie, il y a un conte dont je n'ai pas tout à fait saisi la morale. C'est le portrait de Grenade, le prince Rachid qui tombe amoureux d'une Sarah juive à Jérusalem et elle-même aussi l'aime d'un amour fou. Mm-hmm. Je vous laisse nous raconter ce conte.
Alors, ce conte, je l'ai un peu oublié. Mais je peux inviter l'auditeur car je trouve qu'il n'y a rien de plus agréable pour un artiste que de parler d'un autre artiste. Je vais vous inviter à lire le livre « L'amour de loin » de Amin Malouf. Et c'est l'histoire justement d'un amour dont on tombe en fait amoureux de l'autre. Alors pourquoi j'en parle? Grosso modo, c'est un homme qui tombe amoureux d'un portrait d'une dame. Elle est à Jérusalem. Alors l'amour interdit en plus, un musulman, une juive. Elle tombe amoureuse de Rachid parce qu'on lui amène le portrait. Et il faut savoir qu'à l'époque, on faisait voyager des portraits justement du futur prétendant, les amours arrangés. Il en tombe amoureux, sauf que leur destinée fait en sorte que chaque fois que l'un part vers Jérusalem, l'autre vers Cordoue, ils se croisent et ils ne se retrouvent pas. Et le moment où ils se retrouvent, il meurt dans les bras de sa bien-aimée, en plein milieu du chemin, c'est-à-dire au Maghreb. En fait, ça répond un peu en écho au livre très court. C'était une petite nouvelle de Amin Malouf. C'était un hommage que je rends à cet homme parce que cet homme m'a donné foi en la culture arabe parce qu'à l'âge de... j'avais 23 ans, j'ai découvert Léon l'Africain. Et j'avais toujours dans mon enfance une chose horrible, c'est que j'entendais, je parle de Bruxelles, on n'avait pas de livre d'histoire qui parlait d'immigration marocaine et de culture. Donc j'ai toujours eu une identité religieuse en disant nous on est musulmans, nous on est musulmans. Et Amin Maalouf m'a fait comprendre.
Toujours avec cette idée d'une identité supranationale, le fait d'appartenir
à la Oumma et à être musulman. Et quand Amin Maalouf, au travers de Astaghfirullah, c'était quelqu'un qui était aux côtés de Bouhabdil, parle de Grenade et que le...
Astaghfirullah, je demande pardon à Dieu.
Exactement, c'est un personnage très intégriste qui fait des intrigues autour de Bouhabdil, qui part en exil. Et je dis, tiens, je vais aller voir où a vécu Bouhabdil, c'est-à-dire Grenade, et je m'attendais à des ruines, très honnêtement.
Et Bouhabdil étant le dernier sultan Nasride.
De Grenade, exactement. Et je prends ma voiture, à l'époque c'était une petite R5, je descends avec la mère de mes enfants et je découvre non pas des ruines mais un palais qui s'appelle Al-Hamra, Qal'at Al-Hamra, littéralement la forteresse rouge. Et j'ai enfin une révélation. Le petit maghrébin, fils de mineur et de paysanne marocaine, n'est pas que religion, il est aussi culture, il est azulejos, il est faïence, il est fontaine, il est Bouhabdil, mais il est Averroès, il est tout ça, c'est tout ça ce qu'on appelle la mémoire cellulaire. J'ai dit, oh, j'ai enfin une carte de visite pour mon alter ego. Alors à travers ce conte, j'ai voulu vraiment, en silence, rendre hommage à Amin Maalouf, auteur que j'aime beaucoup et je conseille aussi à nos auditeurs, le labyrinthe des égarés qu'il vient d'écrire. Et ça me touche beaucoup et c'était un hommage. Et c'est aussi, alors vous posiez la question sur la morale, c'est des fois aussi, c'est très bizarre, mais il y a des amours qui nous sont tout bonnement interdits. Et de vouloir forcer le destin, on va presque à toucher la quête, toucher le but. Et en fait, c'est de faire comprendre que ce qui était important, c'était le chemin.
Oui, mais ces amours interdites-là sont dues simplement à la distance.
Ils sont dus à la distance, mais ils sont dus à ce petit Cupidon qui dit « J'aimerais que tu voyages, et non pas que tu voyages pour aboutir, mais que tu voyages pour apprendre. » Et donc, c'était peut-être ça. Et puis, j'aime aussi l'idée qu'un conte nous invite à réfléchir à nous-mêmes, à une réponse. Et je me réjouis de pouvoir dire un jour à des amis, Ghaleb Bencher n'a pas trouvé la réponse directement. Et donc, il est encore aujourd'hui, il manque de sommeil parce qu'il cherche toujours la morale de mon conte. Donc, si j'ai réussi au moins ça, je serais heureux.
Ah, ça serait tellement simple. Alors, nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam. Et aujourd'hui, nous parlons de contes d'Orient et particulièrement avec une trame qui est celle de l'amour avec l'artiste Moustal Argo, artiste musicien, chanteur, conteur, écrivain, essayiste. Et le conte des trois papillons de nuit.
Ah, je l'adore.
Celui-ci a...
Ah, je l'adore. Parce que je le raconte...
Est très touchant.
Oui, il me touche beaucoup. Ce sont... Trois papillons de nuit, alors moi j'aime toujours l'idée, dans les soufis, il y a trois grades, apprenti, compagnon et maître. On les retrouve aussi en maçonnerie, apprenti, compagnon, maître. Il y a toujours les bâtisseurs des cathédrales, apprenti, compagnon, maître.
La fameuse guilde.
Exactement. Oui. Et ce sont trois petits papillons de nuit. Alors, tout est relatif, leur vie elle est pas très très longue, mais alors ils essayent de savoir ce que c'est le secret de l'amour. Et pour ça, eh bien rien de tel que d'aller voir non pas le vieux, mais l'ancien. L'ancien vole pas très vite, mais connaît le chemin. Il leur dit, je veux bien vous montrer le chemin de l'amour, mais je peux pas vous apprendre l'amour. Et trois papillons tout excités, maître, montre-nous alors le chemin. Et les voilà en train de voler dans ces plaines persanes, au milieu d'une forêt. Le maître est à l'avant, les trois papillons excités vont découvrir le chemin de l'amour, donc le suivent. Ils arrivent à la sortie de la forêt, il y a une petite maison. Dans la maison, il y a une petite fenêtre. À la fenêtre, une persienne. À travers la persienne, il y a une bougie. Sur la bougie, une flamme. Et la flamme, elle est en train de danser. Cette danse s'appelle littéralement l'appel de l'amant. Elle danse et les trois papillons sont excités. Ils disent, maître, merci, tu nous as fait découvrir l'amour. Et le maître les regarde et dit, bande d'idiots, j'ai rien fait de tel. Je vous ai juste montré le chemin. Maintenant, l'amour, il faut aller à sa rencontre. Alors, le premier, tout excité, arrive. Il traverse les persiennes. Il s'approche de la bougie, mais... Il se ravise car il sent la chaleur de la flamme. Alors il se met juste tel un derviche à tourner autour d'elle, une aile vers le bas, une autre vers le ciel, et il danse. Il danse jusqu'à rentrer dans un état d'ivresse. Et dans cet état de transe, il revient chez son maître et dit « Maître, merci, j'ai découvert l'amour. » Et dit « C'est quoi l'amour ?» Il dit « L'amour, c'est quand on danse avec l'être aimé jusqu'à en perdre la conscience. » Il dit « Toi ?» Tu as à peine entamé le chemin de l'amour. Le deuxième, un peu plus excité, un peu plus brusque, traverse la persienne, arrive à la bougie, il touche avec son aile la flamme, il se brûle. Et il revient, il dit, maître, moi je connais le secret de l'amour. Il dit, c'est quoi le secret de l'amour? Il dit, l'amour ça fait mal. Il dit, non, Ça, ce sont certaines relations amoureuses. Le troisième, par contre, il vient, il s'abandonne, on peut s'abandonner dans l'amour ou dans la foi. Il prend la flamme avec ses ailes et il éteint la flamme et il se consume en même temps. Et on voit la fumée de la flamme et la poussière de papillon monter très très haut, très très haut dans le ciel. Et j'invite les enfants à regarder la voûte étoilée quand ils peuvent. Et ils verront que dans le ciel, il y a une étoile qui brille plus que les autres. Et ça, en fait, c'est l'âme du papillon et de la flamme. Eux connaissent le véritable secret de l'amour, mais l'amour, c'est le secret.
Et c'est aussi le fait de se consumer.
Exactement.
C'est le fameux brasier intérieur.
Exactement, le fameux brasier intérieur qui tient très fort à une amie qui s'appelle Mélanie Lévy, avec qui nous avons fait l'enlèvement du sérail d'ailleurs.
Bien. Cher Moustalargo, en vous écoutant, je pense à cet apologue cher au soufi de l'hérisson qui tombe amoureux de la gazelle. Et donc, son cœur est en pris, il cherche après elle, il erre, il demande aux autres animaux, n'avez-vous pas vu la gazelle? Parfois on lui dit où est-ce qu'elle est, parfois on lui répondait même pas. Et un beau jour, un animal, peut-être avec un brin de cruauté, lui dit « Mais mon pauvre malheureux, tu t'es vu, toi, comment tu es, tu oses porter ton regard sur la gazelle ?»
Inaccessible.
Et la réponse de l'hérisson était « Mais mon bonheur est d'être sur les traces de la gazelle. » Donc il y a, fin de citation, donc il y a cette idée de que c'est le fait d'être sur le chemin qui est important. C'est pas tant le fait d'arriver.
Tout à fait.
Je reviens à la moralité du conte précédent.
Ouais.
C'est dire qu'en vous écoutant, j'ai réfléchi.
Il voulait la réponse avant que je m'en aille. C'est chose faite, il aura une bonne nuit. Oui, mais c'est vraiment ça. Et je vais même plus loin. Je vais plus loin, bah, je profite de votre émission. Il faut savoir qu'en Belgique, on n'a pas cette chance-là de parler d'islam et de cette manière intelligente, d'ailleurs nous on n'est pas une république, mais intelligente sans tomber dans les travers d'une espèce de laïcité qui malheureusement par moment devient aussi intégriste. Donc la laïcité elle est censée être un socle commun de valeurs, des fois elle peut être castratrice. Donc parlons d'islam. J'aime à l'idée de dire chaque chemin philosophique, religieux, artistique, c'est aussi un chemin individuel. Il est important de se débarrasser des pseudo-gourous. Il y en a partout, hein. Attention, il y en a dans les coachs de développement personnel, en PNL, en régime et en ça. Mais c'est bien des fois de faire aussi, comme cet hérisson, son propre chemin, trouver son propre imam intérieur. Et en général, on a notre réponse, celle qui nous amène dans l'équilibre du bien, du mal. Vous avez votre chemin intérieur aussi, personne n'a la réponse pour vous. Et encore moins celle de l'amour. On n'est pas apte à juger la relation. Alors je donnerais peut-être juste un conseil, alors peut-être c'est l'âge qui me permet de dire ça à mes enfants, l'amour est énergie. Si vous voyez que la relation amoureuse, je parle bien de la relation amoureuse, elle prend de l'énergie, alors c'est que ce n'est pas de l'amour, c'est autre chose. Allez chercher ce que c'est, mais c'est pas possible que ce soit l'amour, parce que l'amour n'est qu'énergie. Et au jour aujourd'hui où les enfants d'Abraham se massacrent littéralement, je pense que c'est là, comme on dit, mettre de la lumière dans les ténèbres, remettons de l'amour dans le cœur des gens. Pour moi, c'est le message même de ce livre, quelque part.
Bien. Moustalargo, parlons de ce conte aussi, du cordonnier de Marrakech.
Ah, le fameux cordonnier de Marrakech. Je l'aime beaucoup, celle-là aussi. Jamal. Jamal est cordonnier. Alors, pour ceux qui connaissent pas Marrakech, il y a plusieurs quartiers, dont le quartier Sidi Youssef Ben Ali, non loin de la Koutoubia. Et il faut savoir qu'il y a un gouverneur. Ce gouverneur a un jeu très pervers. Ce qu'il aime beaucoup, c'est vendredi, jour de la grande prière, Nhar Jimoura, donc jour de la grande prière du vendredi. Il aime bien se balader avec sa calèche et ce qu'il adore, c'est passer dans les quartiers les plus pauvres et jeter des poignées de dirhams d'argent. Non pas pour faire la zakat, la charité, non. Ce qu'il aime, c'est de voir les pauvres bougres courber les chines comme quand on les courbe devant l'Éternel. Et ce jour-là, sa calèche va passer devant l'échoppe de notre ami Jamal, le cordonnier. Alors, ce n'est pas un cordonnier qui fait que des babouches ou des sacoches, il relie aussi des livres rares, précieux. On dit même qu'il a relié le Coran, qu'il en a lu le passage, qu'il a osé parler d'exégèse avec des oulamas. Bref, un homme d'une grande culture. Et il voit pourtant cette pluie de dirhams tomber devant son échoppe. Il a aussi besoin d'argent. Alors il passe de l'autre côté, il prend une pièce, deux pièces. Mais au moment où il se redresse, où il redresse la tête, il voit le regard du gouverneur et il sent...
Il avait besoin d'argent, d'autant plus que son fils était malade.
Exactement. Merci de me rappeler ce détail-là. Et donc, il passe de l'autre côté, il prend les pièces, mais il voit le regard du gouverneur, il voit tout ce mépris. Et sans réfléchir, il se tourne sur son comptoir, un poinçon, une dague. L'histoire ne le dit pas, il prend cette arme et il la plante dans le cœur du gouverneur. Et là, aussitôt dit, aussitôt fait, on le présente devant le juge, le qadi. Le grand qadi de Marrakech, affublé de quelques sbires autour de lui, il détient la loi, la sentence suit immédiate. Demain, à l'heure du premier appel à la prière, décapitation. Qu'il en soit ainsi, dit Jamal. Et puis il réfléchit, et puis il dit « Oh juge, toi qui connais la loi, qui connais le Coran, tu sais que dans telle ayat, dans telle sourate, il est dit que... »
Ayat est un verset.
Un verset, dans tel verset, dans telle sourate. Il est dit quand même que le condamné a droit à un dernier souhait avant de mourir, sauf celui d'avoir la vie sauve, évidemment.
Enfin, je ne suis pas sûr que ça soit dans le Coran,
c'est dans mon compte, hein, évidemment. Ne prenez pas tout ce que... On dit que les compteurs sont tous des menteurs, donc ne prenez pas tout pour argent en comptant, surtout ici. Et... Il se joue de ça, mais le juge a un peu un doute. Il dit, bon, ben, si ce n'est pas haram, c'est que c'est halal. Ce n'est pas illicite, c'est licite. Ok, mais quelle est la question? Et qu'est-ce que tu voudrais? Il dit, je voudrais une dernière fois faire l'amour avec une femme. Oh, mais par Allah, je ne peux pas accepter ça dans mon tribunal. Oui, mais en même temps, si ça peut nous débarrasser de ce criminel, autorisons ça. Très bien, l'affaire est entendue, mais que ça ne se sache pas. On l'amène au donjon. On envoie les crieurs dans les quartiers des bas-fonds chercher une femme de peu de vertu qui, pour quelques dirhams d'argent, passera la nuit avec le condamné. Et là, une nuit se passe, deux nuits se passent, mais personne ne se présente. Alors le juge s'impatiente. Alors, est-ce que cette histoire est réglée? Ben non, personne ne s'est encore présenté. Alors, augmentons la prime, une bourse pleine d'argent, une semaine, un mois, deux mois. Quelle est cette femme qui oserait coucher avec l'assassin du gouverneur, fût-elle de peu de vertu? Et là, de nouveau, un mois s'écoule. Là, il n'en peut plus, le qadi, c'est une bourse pleine d'or. Le soir même, on entend frapper au donjon. C'est une dame avec un voile devant le visage. Elle arrive, elle demande à passer la nuit. La nuit passe vite dans les comptes. On est au matin, elle a remis le voile devant son visage et elle s'en va. Et là, le garde l'apostrophe dit « Madame, madame, vous avez oublié l'essentiel, votre bourse ». Elle dit « Mais je n'ai pas besoin de cette bourse, tu en as plus besoin que moi quand je te vois ». Il dit « Non, attendez, moi j'ai des comptes à rendre, vous ne vous rendez pas compte, prenez cette bourse s'il vous plaît, prenez cette bourse ». Il dit « Non, je t'en prie, garde-la ». Il dit « Mais madame, dites-moi au moins qui vous êtes, moi j'ai des comptes à rendre ». Alors elle lève avec candeur son voile, elle dit « Je suis la veuve du gouverneur ». Alors, il y a deux interprétations possibles. Peut-être qu'elle s'est vengée de son mari, peut-être qu'elle a vengé son mari, chacun y trouvera la réponse qu'il veut.
Oui, comme moralité, c'est, il faut bien que, pour la vengeance, il faut bien que la sentence ait lieu.
Exactement.
Et donc, le coup serait le fait d'exaucer ou d'accéder à sa demande. Et l'autre, c'est le fait aussi de trouver ce subterfuge, je parle du condamné,
tout à fait,
pour perdurer un moment.
Exactement. Oh, moi j'ai osé la lecture de la femme qui se dit « Enfin, quelqu'un qui s'est débarrassé de mon mari ». Moi, c'était encore une troisième lecture. Mais voilà.
Oui, mais ainsi, elle va hâter l'exécution.
Oui, mais le remercier en même temps. Condamné, il l'est. Peut-être que c'était bien que ce soit par la bonne personne.
Bien, peut-être qu'il nous reste le temps d'un dernier conte, celui de l'amoureux aveugle.
Oui. Alors, c'est un conte, moi, j'ai un peu adapté, il m'a bouleversé. C'est l'histoire d'un petit garçon qui raconte justement qu'est-ce que c'est l'amour. Et c'est l'amour entre un garçon, Salim, une fille. Ils sont à Cordoune, on doit dire.
Et la fille s'appelle Leïla.
Leïla, oui. Ils sont non loin du Guadalquivir. Et c'est l'amour platonique d'enfant. Ils n'ont que 15-16 ans. C'est des petits billets. Et Salim, il donne toujours un petit billet à sa sœur pour l'amener à Leïla. Et Leïla, elle est un peu coquette. Elle prend toujours le temps de lui répondre. Des fois même une semaine. Et Salim adore ce jeu. Et ça dure jusqu'au jour où il dit, Leïla, j'aimerais t'épouser. Ça y est, le mot est prononcé. Il est lâché. Mais pour ça, il faut une dot. Il faut que Salim travaille. Il va travailler sur les docks. La Noria, elle est là. Il travaille très dur. Et il rassemble l'argent nécessaire pour la dot. Oui, mais voilà. Le jour où il a enfin cette dot, il dit à sa sœur, va dire à Leïla que demain je viendrai avec maman et on demandera sa main en mariage. Et le moment où la sœur de Salim arrive, eh bien il y a des dames qui sont là devant la maison, il pleure, il y a un accident qui est arrivé. L'histoire raconte que le petit frère de Leïla a voulu s'agripper à une marmite pour prendre un beignet, l'huile s'est renversée sur le visage de Leïla et elle est défigurée. Sans plus attendre, on la conduit, les hôpitaux s'appellent des maristans, auprès des meilleurs médecins de Cordoue. Et à son chevet sa famille. Salim ne peut pas aller, il n'a aucun lien de familial avec elle. Et il attend un mois, deux mois, trois mois, Leïla revient chez elle. Il renvoie sa sœur et pour seule réponse, Leïla dit « Ton frère ne verra plus jamais mon visage ». Elle a le visage couvert avec pudeur, avec un voile, et elle refuse. Et Salim dit « Mais je ne suis pas amoureux de son visage, je suis amoureux de Leïla, de son âme, de son être, de ce qu'elle provoque chez moi. Va lui dire que je l'aime, elle, rien à faire. » Et il y a un va-et-vient, ça dure des jours, des semaines, et enfin Salim comprend l'inéluctable. Et il se met à pleurer. Il se met à pleurer avec ses larmes qui font que, eh bien, qu'à un moment donné, ses larmes acides lui brûlent la cornée. Et Salim ne voit plus. Et alors si l'histoire s'arrête là, elle serait triste, mais c'est la sœur de Salim qui a l'idée. Si Leïla ne veut pas être vue et si Salim ne peut pas voir, quel meilleur couple à Cordoue. C'était le 27e soir du Ramadan, Leïlatul Qadr, la nuit du destin. Ce jour-là, les deux âmes se sont rencontrées. Ces deux âmes ont continué à circuler dans Cordoue. On a vu l'homme à la canne blanche, la femme avec le voile qui couvre la moitié de son visage, circuler. De ces deux corps vont naître quatre enfants. De ces quatre enfants, une dizaine de petits-enfants. Et puis le Créateur rappelle à lui d'abord Leïla. On est là au cimetière, les gens ont lu la prière de l'absent, les femmes s'en sont allées. Salim est seul, il a la main sur l'épaule de son fils, une canne à l'autre. Et puis à un moment donné, il sourit. Il sourit devant le linceul blanc, il dépose sa main. Il sourit non pas pour la perte de Leïla, il sourit pour tout ce qu'elle lui a apporté et surtout parce qu'il sait que bientôt, ça sera son heure de le rejoindre. Alors il se retourne, il dépose là la canne, il embrasse la tête de son petit-fils et il s'en va quand son petit-fils lui dit « Abou, où vas-tu comme ça ?» Il dit « Je rentre chez moi, le dos courbé par le temps. » Il dit « Mais tu t'en vas, oui, mais tu as oublié ta canne blanche. » Il dit « Mais mon fils, je n'ai jamais eu besoin de canne blanche car vois-tu, je n'ai jamais été aveugle. » Et ce conte clôture et c'est pour dire au sultan de Cordoue à ce moment-là, ben, l'amour ne se regarde pas avec les yeux, se regarde avec l'âme. Comme dit Rumi, l'amour ne se regarde ni avec le cœur, ni avec la pensée, car la pensée peut s'oublier et le cœur peut s'arrêter. Par contre, l'âme n'oublie et ne s'arrête jamais.
Et donc, moralité, on ne tombe pas amoureux nécessairement, en tout cas de l'enveloppe charnelle.
Exactement.
Mais on voit
au-delà.
Au-delà. Et c'est de l'âme. Merci infiniment.
Non,
merci, cher Moustapha
Largo,
de nous avoir édifiés justement par ces contes d'Orient. Principalement des contes d'amour. Chers amis auditeurs, c'est question d'islam et nous avons reçu aujourd'hui l'artiste Moustapha Largo. Vous retrouverez l'émission comme toutes celles de la chaîne sur le site de France Culture et vous pourrez la podcaster et la réécouter sur l'application Radio France. Vous retrouverez aussi les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attaché d'émission est Thierry Beauchamp. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Jason Taous et la réalisation par Jeanne Cherquefosse.